Parce que je sais que quand on parle d'histoire, patrimoine, certains ont une réaction de rejet, parce que c'est pas toujours fun la façon dont on l'apprend à l'école. Mais là, comme on n'a rien appris à l'école sur ce sujet-là, on avait carte blanche.
Enquête du patrimoine.
C'est une bonne situation, ça, scribe.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
Bonjour et bienvenue dans cet épisode de notre podcast de Rubriken Historbraise, Enquête de patrimoine. Le podcast qui parle de celles et ceux qui valorisent le patrimoine en Bretagne. Je suis Dorian et avec Louane, nous allons aujourd'hui vous emmener dans une série de podcasts dédiés à l'immersion, c'est-à-dire à toutes celles et à tous ceux qui diffusent l'histoire et le patrimoine breton au grand public.
Et aujourd'hui, nous nous intéressons à une façon de diffuser l'histoire de manière ludique, et notamment par un jeu de cartes. Et pour ce, nous avons l'honneur de recevoir Marie-Caroline Talauté. Marie-Caroline, donc, tu as créé un jeu de cartes qui a comme design des icônes de la Bretagne, afin de faire connaître ces différents personnages au grand public. Et aujourd'hui, tu es aussi accompagnée de Meg Mallet, qui a réalisé notamment les designs de ce jeu.
On va commencer avec la première question. Pour commencer, est-ce que du coup tu peux te présenter en quelques mots et nous parler un petit peu justement de ton jeu de cartes ?
Oui, déjà, merci de nous avoir invités. Meg et moi aujourd'hui, on est très contentes d'être là. C'est toujours un plaisir de discuter d'un projet quand on a porté à deux pendant aussi longtemps. Donc moi, c'est Marie-Caroline. Je suis née dans le centre Bretagne. J'ai fait mes études à Rennes il y a déjà un bon paquet d'années. Meg et moi, on s'est rencontrés dans une collectivité dans laquelle on travaillait toutes les deux. Et l'idée de ce jeu, ça m'est venu il y a déjà 3 ans, à peu près. Et il m'a fallu du temps pour mettre en œuvre ce projet-là, vraiment. Je ne sais plus s'il y avait une autre question.
Du coup, il y a une autre question, c'est comment est-ce que du coup cette idée du jeu vous est venue ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou quelque chose qui s'est passé qui vous a dit « Ok, il faut faire quelque chose justement ?»
C'est plutôt... Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, au patrimoine en Bretagne, et à force de lire des bouquins sur ce sujet-là, j'ai découvert le parcours de personnages atypiques, et je me suis dit « C'est dommage, on n'apprend pas ça à l'école, comment est-ce qu'on peut mettre ce patrimoine à la portée de tous ?» Et quand j'étais enfant, il y avait un jeu de cartes illustré, les rois, les reines d'Angleterre. Et je me suis dit, on pourrait faire la même chose pour la Bretagne. Donc c'est un jeu de cartes pour jouer à la belote ou au poker. Mais chaque carte est illustrée par un personnage breton.
Depuis combien de temps le projet il est en développement à peu près ?
Alors on va dire qu'avant de rencontrer Meg, ça faisait 2 ans que je travaillais dessus en solo. Donc mon idée première, c'était pour les illustrations de le faire en gravure. Et je suis très lente pour bosser. Et je voyais bien que ça allait être un projet qui allait rester dans les cartons. Et par le biais du boulot, donc, j'ai rencontré Meg et je me suis dit, je vais lui proposer si elle souhaite travailler ensemble. Meg m'a fait 3 prototypes. Oui. 3 ou 5, hein, je crois bien.
Je crois que c'était 3.
3, voilà. Et ça m'a tout de suite emballée. Donc je lui avais dit un petit peu qu'est-ce que je voulais avoir. Je lui avais donné une base de croquis, pas forcément foufou, que j'avais réalisé sur ordi. Et Meg, avec son regard, m'a permis vraiment de passer au stade supérieur. Sinon, je serais encore au stade ébauche. Et ce stade ébauche, voilà, je pense qu'il avait pris vraiment beaucoup de temps. Ouais, 2 ans. 2 ans avant que je rencontre Meg. Une fois qu'on s'y est mise, toutes les deux, ça nous a pris 1 an.
Super, merci. Et du coup, Meg, ton rôle dans le jeu, est-ce que c'est purement dans le graphique ou est-ce que du coup, tu as eu aussi une certaine part dans la conception, dans le choix de certaines figures, etc. etc.
Donc moi, mon rôle, il a principalement été graphique, mais il y a eu quelques débats. Enfin, je sais que pour Marie-Caroline, ce qui comptait aussi, c'était la parité. Et pour ça aussi, j'étais assez d'accord avec elle. Donc il y a eu tout ce regard-là, sachant que c'est vraiment que Marie-Caroline qui a choisi les personnages, mais à chaque fois elle me racontait les histoires des personnages quand elle me les envoyait. Donc ça m'a aussi permis de m'accrocher à certains personnages plus qu'à d'autres. Mais mon rôle reste quand même principalement l'illustration et le graphisme de ce jeu.
D'un côté un peu plus professionnel, entre guillemets, au niveau du métier, est-ce que ce jeu de cartes, tu l'as développé dans le cadre de ton métier ou plutôt comme un projet personnel, un peu une passion en dehors? C'est dans quel contexte un petit peu que tu as développé tout ça?
C'est vrai que tu fais bien de le rappeler, je ne l'ai pas précisé dans ma bio, j'aurais dû préparer une fiche Wikipédia, mais ce n'est pas aussi passionnant que Wikipédia. En fait, oui, Meg et moi, on s'est rencontrés dans une collectivité. Et Meg s'occupait, elle travaillait au service communication et moi je travaillais au service tourisme, donc la promotion d'un territoire. Mais ce projet-là est vraiment venu en passion. Comme je le disais, le déclic, ça a été de trouver ces personnages au fil de mes lectures. J'ai stocké l'idée en tête, j'ai stocké mes petits sketchs et j'ai fait ça en parallèle de mon travail dans la collectivité. Voilà, donc c'est vraiment... En plus, c'est une activité en auto-entreprise et pour Meg, en tant qu'artiste, auteur, ton statut.
Tu as déjà plus ou moins répondu, mais en quoi ton parcours professionnel et différentes expériences dans les métiers de la médiation ont pu influencer justement un petit peu la réalisation de ce jeu dans la posture qu'on prend par rapport aux gens ou justement dans la réalisation ou les connaissances qui sont venues en faisant des recherches? Peut-être c'était pour quelque chose d'autre à la base et c'est comme ça que ça arrivait dans le projet par la suite.
Oui, en fait, je ne suis pas diplômée ni en tourisme, ni en patrimoine, ni en histoire. Je me suis reconvertie dans le tourisme plus tard, après un premier boulot dans la mode. Donc, vraiment, rien à voir. Donc, ce projet, je l'ai avant tout vu comme une passion. Je n'ai pas suivi de formation professionnelle pour. Mais c'est vrai que comme je travaillais dans la promotion touristique d'un territoire, donc forcément d'une culture locale aussi, je pense que ça m'a imprégné dans ce projet de jeu de cartes. Et notamment, moi, ce qui me tenait à cœur, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit suffisamment parlant pour les gens et surtout pas barbant. Parce que je sais que quand on parle d'histoire, patrimoine, certains ont une réaction de rejet, parce que c'est pas toujours fun la façon dont on l'apprend à l'école. Mais là, comme on n'a rien appris à l'école sur ce sujet-là, on avait carte blanche. Et cet outil ludique, bah, il s'est trouvé que c'était un jeu. Mais finalement, mon métier ne m'a pas... J'ai trouvé cette idée-là en dehors, finalement, dans mon enfance, quand j'avais ce jeu de cartes sur les rois et reines d'Angleterre, où je les avais appris par cœur, du coup. Donc, ça, c'est juste une idée qui m'est restée comme ça.
Merci pour cette réponse. Et donc, aujourd'hui, vous êtes deux pour présenter ce projet, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes avec qui le projet a été mené? Est-ce qu'il y a des partenaires aussi au niveau des différentes étapes de conception, d'impression aussi, peut-être de diffusion? Est-ce que vous êtes deux? Est-ce que c'est toi qui mènes surtout? Comment est-ce que vous répartissez un petit peu tout ça?
Eh ben, le travail, à proprement parler, avec Meg, ça a duré un an. Donc on fonctionnait soit un petit sketch papier, soit un petit brouillon sur ordi, voilà, photo. À partir de ces sources iconographiques qu'on avait pour les personnages, ou pas. Parce que, par exemple, Marion Dufaouët est née au XVIIIe siècle, on n'avait pas, évidemment pas de photo, pas de tableau, puisque c'est une femme du peuple. Donc Meg et moi, j'essayais de prémâcher le travail de Meg, parce que le travail créatif, c'est déjà une chose. Ça faisait partie de la commande que je lui avais demandée. Mais toute la partie recherche historique, ça aurait fait beaucoup. Et moi, c'était un plaisir de chercher aussi ces éléments-là.
Oui, puis il y avait vraiment... Marie-Caroline, elle avait vraiment une vision des personnages qu'elle m'envoyait. Et grâce à ces sketchs ou à ces photos ou les attributs qu'elle pouvait m'envoyer sur certains personnages, c'est beaucoup plus simple ensuite de pouvoir proposer des illustrations qui lui correspondent aussi. Par exemple, pour Marion Dufaouët, elle m'avait envoyé qu'elle avait un certain charme, une chevelure rousse, et tout ça, ça m'a permis ensuite de faire ma propre idée de ce qu'aurait ressemblé Marion Dufaouët et de lui proposer des illustrations qui pouvaient potentiellement lui correspondre, quoi.
Ouais, c'est vrai que pour certains persos, Meg a dû partir d'une feuille quasiment blanche, parce qu'on n'avait pas de description physique, donc... On a essayé d'être raccord au niveau des costumes, de voir à telle époque à peu près quels vêtements pouvaient porter les Bretons. Ensuite, pour le choix de certains persos, au contraire, des personnages qui étaient peut-être plus célèbres, On avait pléthore de photos, de tableaux, on avait l'embarras du choix. Donc les illustrations que vous trouverez dans le jeu sont bien souvent issues de ces photographies ou de ces tableaux quand ils existaient. Et autrement, pour les personnages qui n'existaient pas, Marion Dufaouët, Sébastien Le Balp, qui a mené la révolte des Bonnets Rouges, là, c'était vraiment de la conception pure.
Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est pas forcément des photos ou des tableaux communs. Enfin, vous avez Anne de Bretagne, qui est un tableau très commun et tout. Mais c'est beaucoup de personnages qui... Enfin, vous les verrez sous un autre angle, en fait. C'est pas forcément la première photo que vous trouverez sur Internet. Et c'est vraiment ça que j'ai bien aimé aussi dans la recherche de Marie-Caroline, c'est qu'elle a, enfin, elle a approfondi sa recherche et que c'était un plaisir du coup à dessiner parce que c'était pas les gravures ou les peintures qu'on avait l'habitude de voir. Et on voit certains personnages sous leur figure un peu plus jeune ou enfin bref, sous d'autres figures. Et c'était hyper enrichissant, quoi. Et je pense que ce sera hyper enrichissant aussi pour l'apprentissage de ce patrimoine-là.
Et en dehors de notre combo de choc avec Meg, on n'avait pas vraiment de partenaire, si ce n'est l'imprimeur. Donc là, on a travaillé avec un imprimeur du Finistère. Voilà. Ensuite, pour la deuxième phase de notre projet sur laquelle on a vraiment travaillé ensemble, c'était sur le lancement de notre cagnotte pour le financement participatif. Où là, vraiment, au niveau de la communication. On a bien bossé ensemble et à ce stade-là, on a noué un partenariat avec l'association Braise 5 sur 5 qui œuvre au rattachement de la Loire Atlantique et de Nantes en Bretagne. En fait, beaucoup de nos personnages sont issus de cette partie-là de la Bretagne. Donc on s'est inséré dans la démarche, on a adhéré et vous trouverez au dos du paquet un petit logo tout piti-piti, sur lequel c'est écrit Braise 5-5. Donc peut-être que nos auditeurs auront déjà vu sur des panneaux à l'entrée des communes. Certaines communes ont un panneau Braise 5-5. Donc ça veut dire que voilà, elles sont pour cette démarche de rattachement. Et voilà, c'est à peu près le seul partenariat qu'on a eu, hein, mec.
Merci beaucoup pour la réponse très complète. Non, mais en fait, c'est bien parce que ça répond déjà plus ou moins et ça anticipe la question d'après qui était sur quel modèle économique le projet repose. Donc du coup, vous l'avez dit, c'est le financement participatif. Et donc, c'est complètement lié au financement participatif. Il n'y a pas eu des aides de la région ou des choses comme ça.
Alors, c'est vrai que je n'ai pas recherché d'aide complémentaire. Le premier tirage repose essentiellement sur le financement participatif. Et pour le modèle économique, concrètement, faire du local, c'est un coût très élevé. Donc par rapport aux autres jeux de cartes, cette famille, tarot, tout ce que vous voulez, qui sont édités en Bretagne, mais pas fabriqués en Bretagne, notre prix est forcément plus élevé. C'est un beau jeu, moi je suis fière de le dire. La qualité du papier aussi, grammage, voilà, fait que le prix est plus élevé que la moyenne.
Et puis il y a aussi évidemment le travail graphique et qui prend beaucoup de temps et on l'oublie souvent et donc tout ce travail-là se paye aussi. Et donc toutes les illustrations, vu qu'il y a une illustration pour chaque carte, forcément ça fait monter le prix et ça justifie le prix plus élevé qu'un tarot qu'on pourrait trouver en magasin qui est édité avec des illustrations qu'on connaît tous, etc.
Donc le modèle économique de ce premier tirage, notre objectif premier, c'est opération zéro, retrouver nos billes, pour nous permettre ensuite de faire un deuxième tirage. Donc pour ce premier tirage, c'est beaucoup de ventes en direct, puisque les vacances de Noël arrivent, les fêtes, c'est l'occasion de faire des petits cadeaux. J'en profite pour faire de la pub. pour le deuxième tirage, on espère bien développer un réseau de points de vente, que ce soit office de tourisme, boutique de musée. On a commencé à être démarché par des offices de tourisme récemment aussi. Voilà, mais ça viendra peut-être dans un second temps pour un deuxième tirage en 2026. Donc si vous voulez avoir votre exemplaire, il vaut mieux l'acheter maintenant.
Du coup, maintenant, je vais poser des questions un petit peu plus sur le côté valorisation du patrimoine par rapport à ce jeu de cartes. Et notamment, on se demandait en quoi ce jeu il permet au public d'être en immersion, de sentir un petit peu plus proche de l'histoire de la Bretagne et notamment de ses acteurs.
Alors, ça reste avant tout un jeu de cartes basique pour lequel vous pouvez faire une partie de belote, poker. L'immersion vient bien sûr des illustrations qu'on a réalisées et qui sont sur toutes les cartes. Mais en plus, dans le paquet de cartes, vous trouverez une petite notice explicative sous forme de poster dans lequel vous avez une description très succincte pour chaque personnage. Et avec Meg, on avait réfléchi justement à la forme que pouvait prendre cet outil-là. Est-ce qu'on part sur un livret, mais plusieurs pages ? Ou là, c'est un peu plan-plan. Avec Meg, on était très scolaire. Voilà, on était d'accord. Donc, on a opté pour ce poster recto-verso, un côté femme, un côté homme. Et je pense que c'est ce qui... On l'a conçu comme l'occasion pour les joueurs d'aller au-delà du jeu. Et de, voilà, si un visuel leur a tapé dans l'œil, un nom, une date de vie, naissance, très courte, que ça les incite à aller voir ce poster et s'intéresser à la vie de chaque personne.
Et puis sur chaque carte, on ne retrouve pas forcément, enfin on retrouve jamais en fait la profession de la personne, enfin pourquoi elle a pu œuvrer justement pour la Bretagne. Et donc du coup, ça permet aussi de, enfin on peut pas deviner avec un visuel ce que la personne a fait. Donc ça permet aussi de savoir en quoi cette personne-là a œuvré pour la Bretagne.
Très bien. Et du coup, on se demandait aussi comment l'équilibre a été trouvé entre faire plus un outil de médiation ou un outil de divertissement, savoir à quel point on met des informations ou pas sur les cartes. Est-ce que vous trouvez que c'est justement un peu plus un outil ludique ou au contraire, le but, ça a été plus en faire un outil de médiation ?
Pour moi, c'est un outil... avant tout ludique, et ensuite un côté médiation. Et avec Meg, comme disait Meg, on a pas mis le métier de chaque personnage, parce que par exemple, Marion Dufaouet, c'était une voleuse. On va peut-être pas mettre voleuse. tout simplement, ça reste un jeu, donc il doit rester pratique, facile d'utilisation. Donc si on rajoutait des informations, en plus du nom, date de vie, mort... ça faisait beaucoup et ça n'aurait pas été pratique pour jouer, tout simplement. Donc, de par le format du jeu, on était aussi limité en termes d'informations qu'on pouvait transmettre.
Et on a un petit peu discuté avant de commencer cet enregistrement, mais comment est-ce qu'ont été choisis ? Quelle personnalité on va représenter ? Est-ce que c'est uniquement des personnalités très connues ? Est-ce qu'au contraire, il y a eu la volonté de représenter des personnalités un petit peu plus inconnues ? C'est des débats que vous avez eus entre vous.
La question qui fâche peut-être. La sélection est avant tout subjective. Donc, comme je le disais, c'était des personnages qui m'ont intéressé moi parce que j'avais lu des choses sur eux. Tous les personnages que vous trouverez dans ce jeu de cartes sont décédés. Donc voilà, pour les droits d'auteur, ça nous simplifie aussi la tâche. Il y a des personnages très connus, Anne de Bretagne, à côté desquels on ne pouvait pas passer, Chateaubriand, Jacques Cartier, et d'autres qui le sont beaucoup moins. On pense qu'il y aura des surprises pour beaucoup de joueurs, on l'espère en tout cas, parce que c'était le but aussi de remettre dans la lumière des parcours atypiques. Après, notre critère, ça a été de se dire on aimerait montrer des Bretons qui ont eu des parcours de vie intéressants ou qui sortent de l'ordinaire. Mais certains personnages, on en a mis certains de côté délibérément parce que c'était des superbes artistes, mais ils ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc typiquement, on pouvait pas faire ça. Mais on a quand même eu des débats parce que, par exemple, Jacques Cartier, soi-disant découvreur du Canada, donc nous, on a formulé ça autrement. On a dit il a donné son nom au Canada, voilà. Surcouf aussi, qui est une figure incontournable du pays malouin, et si on ne l'avait pas mis, probablement qu'on nous aurait dit « il manque Surcouf ». Mais il faut savoir que Surcouf a participé à la traite négrière. Donc on a pris le parti de faire figurer certains personnages qui sont très connus, mais en assumant la face sombre de l'histoire aussi. On est... Objectivement, on ne l'a pas caché. Et ça fait partie aussi de, justement, la médiation. On n'est pas forcément pour l'effacement total d'une partie d'histoire. Je pense que, justement, il faut la prendre, l'assumer et puis l'étudier et remettre à leur place, à leur époque aussi.
Donc toujours un petit peu dans cette question de voilà, quelle figure on va représenter, est-ce qu'il y a notamment voilà, des valeurs que vous avez voulu mettre en avant, bah, comme là vous l'avez dit, certaines figures qui sont un petit peu plus ambivalentes, on va dire. Il y a aussi la question de la parité. Est-ce qu'il y a une volonté de représenter voilà, équivalemment tant d'hommes et de femmes sur ce projet?
Oui, Meg l'avait dit, ça me tenait à cœur que... Il y a autant de femmes que d'hommes, donc Meg était tout à fait partante. Au contraire, hein, Meg préfère dessiner les femmes. Hein, donc, oui, parce que pareil, là, dans les livres d'histoire, de patrimoine, on parle très peu des femmes. Donc voilà, ça c'était une chose. Après, des valeurs communes aux personnages, pas forcément. Les femmes, comme elles ont été davantage occultées dans l'histoire, on a trouvé moins de personnages féminins à raconter, à dessiner. Donc, si on reprend, par exemple, Marion Dufaouette, c'était la chef d'une troupe de brigands. Donc, ce personnage peut aussi peut-être poser question, parce que est-ce qu'on peut dire qu'elle a eu un parcours exemplaire? Non, pas vraiment. Elle était symptomatique d'une société rurale misérable. Et elle avait trouvé un gagne-pain qui lui a coûté la vie. Donc je dirais plutôt des parcours atypiques plutôt qu'exemplaires.
Donc par ce jeu, cet objet de médiation, on va dire, qui est un jeu, c'est assez atypique, on peut dire. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez toucher un public qui est différent? Ou est-ce que vu que c'est quand même c'est sur la région, des personnalités de la région bretonne, est-ce que vous pensez que ça va quand même toujours toucher un public très ciblé ou un petit peu plus élargi?
Je pense que notre but est d'élargir à plus loin que la Bretagne, on espère. Malgré tout, on sait très bien que les Bretons sont très attachés à leur Bretagne et que ils seront forcément nos premiers supporters. Mais on espère que justement il y a des signes bretons comme l'hermine, tous les personnages bretons, etc. Mais ça reste quand même un jeu où il n'y a pas le gros drapeau breton. Donc je pense que certaines personnes peuvent être tentées d'acheter ce jeu pour seulement leur culture générale à elles, même si elles ne sont pas bretonnes. Et voilà.
Et pour les personnes qui seraient sensibles au graphisme, voilà, ça reste un jeu très créatif, produit à petite échelle, localement, donc voilà, ça peut toucher aussi ce public-là un peu plus sensible, mais l'objectif c'était, de toucher forcément les Bretons et de leur donner une image différente de ce que l'on véhicule sur la Bretagne. Et ces clichés habituels, ces personnages habituels, son drapeau habituel. Donc on voulait tout simplement refléter toute la diversité et la richesse de la Bretagne.
Est-ce que vous savez si par rapport aux figures qui sont représentées, il y a déjà une personnalité qui ressort parmi celles qui est un petit peu la préférée et notamment, quelle est chacune votre figure préférée de ce jeu de cartes?
Je pense que celle qui ressortira pour les personnes qui achèteront le jeu sera Anne de Bretagne, évidemment. Ça a été pour la petite anecdote, ça a été ma première ébauche. C'est sur cette ébauche-là que Marie-Caroline a fait son choix. Et c'est une illustration dont je suis très très fière. Je trouve qu'elle reflète bien sa puissance, etc. Moi, mon personnage préféré, c'est Claude Cahen. Parce que c'est une personne non-binaire, a participé au Freak Show, et je trouve que c'est une personne qui a un côté artistique, une vision artistique très moderne, qui a participé à la Résistance, donc il y a vraiment une histoire hyper forte derrière cette personne, et c'est une des histoires qui m'a le plus touchée, et j'ai adoré aussi faire son illustration, parce que elle change beaucoup par rapport aux autres illustrations, et voilà.
Oui, je peux vous garantir que l'illustration vaut le coup d'œil. De la grosse pub. Moi, mon perso préféré, c'est Jeanne Malivelle, donc une artiste née aussi dans le centre Bretagne à la fin du 19e, morte prématurément. C'était une superbe artiste. Surtout, elle se définissait elle-même comme avant tout graveuse sur bois. Et elle était le leader d'un mouvement artistique breton qui avait pour objectif de moderniser l'art en Bretagne, de le rendre plus accessible aussi, de, comme elle disait, sortir des bignouseries. Donc moi, j'ai été très sensible à la fois à son œuvre artistique, ses gravures qui ont une puissance d'expressivité qui est vraiment incroyable, et son militantisme. Elle était impliquée pour essayer de développer économiquement le centre-Bretagne, l'emploi des femmes en tout cas. Elle n'était pas indépendantiste, mais régionaliste, donc très attachée à la Bretagne. Et voilà, c'est un personnage qui vaut vraiment le détour. Et l'année prochaine, en 2026, donc, ce sera le centenaire de son décès. Donc il y aura plein d'expositions. Et voilà, si vous regardez Jeanne Malivelle, Mouvement des Sèvres-Breur, ça va révolutionner votre vie.
Sinon, pour revenir un petit peu à la question de la réalité historique, ça a été un petit peu abordé déjà avec un peu la feuille blanche, enfin de ne pas vraiment savoir à quoi ressemble telle personnalité. Justement, comment on fait vraiment pour savoir comment dessiner ces personnalités, sur quelles sources on s'appuie et quelles difficultés y a concrètement à faire cela.
Donc moi, comme je disais au début, j'ai fait totalement confiance à Marie-Caroline sur la recherche iconographique qu'elle avait faite. Et donc je me suis vraiment basée sur les peintures ou les photos qu'elle a pu retrouver de l'époque. Le challenge, on va dire, c'était de... Enfin, que je dessine Anne de Bretagne ou que je dessine Claude Cahun, qui ne sont pas du tout de la même époque, évidemment, c'était d'avoir une unité dans les personnages. Et donc Marie-Caroline pouvait m'envoyer une gravure ou une peinture du XVIIe siècle. Et par exemple une photo de Claude Cahun, et j'arrivais à en faire une illustration qui... On avait l'impression que, du coup, que c'était des personnages qui étaient de la même époque. Voilà.
Oui, ce que Meg ne dit pas, c'est que j'ai été particulièrement chiante, assez exigeante, donc parfois il a fallu retoucher certains personnages pour qu'on trouve vraiment le ton juste, mais... Assez rapidement, Meg a trouvé le fil rouge pour le style graphique sur lequel on s'est calqué pour tous les autres personnages. Et même si on utilisait des documents différents de par leur nature, photos, gravures, peintures, on a gardé une ligne graphique cohérente. Et ça nous tenait vraiment à cœur. Voilà. Ça a été un gros, gros boulot. Travail d'une année, donc je le rappelle.
Après les retouches, enfin tout ce qui est renvoyé, l'illustration et tout ça, c'est hyper important pour justement capter. Je pense que notre jeu, il aurait pas cette unité-là si j'avais pas eu les retours de Marie-Caroline, évidemment. Mais c'est hyper important et en tant que graphiste, on en a besoin de ces retours-là aussi. Parce que ça participe. Enfin, on n'a pas forcément la même vision du jeu de cartes, on n'a pas forcément les mêmes visions des personnages historiques, et j'ai pas fait les recherches qu'elle a pu faire aussi. Donc voilà, pour correspondre vraiment à ce qu'elle voulait transmettre, c'est très important. Donc non, ce n'est pas chiant, c'est notre métier.
Bon, c'est peut-être un petit peu prématuré de poser cette question à ce stade du projet, mais est-ce qu'il y a une idée d'une saison 2 qui serait peut-être basée sur... une autre région, ce type de choses, ou est-ce que c'est un projet qui pourrait peut-être, si tout se passe bien, se perpétuer ?
Saison 2, on a eu quelques retours qui nous demandent justement un renouvellement, d'autres personnages. Mais je me dis qu'on va essayer de faire vivre d'abord la première version et essayer de rendre le modèle économique viable, parce qu'actuellement, il ne l'est pas encore, on en est vraiment au début. Donc saison 2, au contraire, moi je serais très partante, mais à partir du moment où on aura touché notre stabilité.
Après, je sais que beaucoup de jeux font des extensions, ça pourrait aussi être une idée, bon bien sûr si le budget le permet, mais de rajouter quelques cartes avec une petite feuille descriptive pour l'explication des personnages, pourquoi pas. Je pense qu'il y a plein d'idées en fait à faire. Je pense que ça peut, enfin, ce jeu peut faire émerger aussi plein d'idées pour une potentielle saison 2.
Ce jeu se prête bien aux 7 familles aussi. Dans la typologie des personnages, on a beaucoup d'artistes, parce que moi, c'est ma petite passion. Il se trouve que Meg aussi. Donc, on a vraiment fait un choix très subjectif. On a des explorateurs, on a des scientifiques, on a des politiques, des militants. Donc, ce serait un jeu de 7 familles, peut-être pas pour les enfants, mais en tout cas, ça s'y prêterait bien aussi.
Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Et si jamais, justement, on veut se procurer ce jeu, pouvoir l'acheter, comment est-ce qu'on fait ?
Pour le moment, on a une boutique en ligne éphémère sur kengo.bzh, qui est ouvert depuis le début de la semaine jusqu'à Noël. Donc vous pouvez l'acheter en ligne par ce biais-là. Autrement, vu qu'on essaye de développer aussi des points de vente, c'est en cours, donc on ne peut pas vous dire d'aller vous rendre à tel endroit parce qu'on n'est pas on n'a pas encore conclu, c'est en négociation. Mais par contre, avec Meg, on envisage de participer à des petits marchés de Noël éventuellement pour faire à Chanteloup, notamment la fête des Lumières à Chanteloup, qu'il ne faut pas louper. Voilà, et ne pas hésiter à nous suivre sur Instagram, icônebzh, ou alors sur notre page sur Kengo.
Et à nous solliciter aussi si vous avez des petites places pour des petits marchés de Noël, ce serait avec grand plaisir que je viendrai, ou Marie-Caroline viendra, pour vendre notre jeu de cartes, et voilà.
Notre adresse mail, c'est icone@bzh.gmail.com.
Bien, parfait. Et petite dernière question de la fin. Est-ce que c'est pas forcément une activité habituelle de voir des jeux de cartes comme ça ? C'est très original. Qu'est-ce qui anime concrètement pour continuer à faire ce type de jeu de cartes ? À savoir que ça a dû prendre quand même beaucoup de temps. On parle de 54 cartes, il y a toute la recherche historique, les designs, tous les débats, etc. Voilà, qu'est-ce qui anime pour continuer à faire un projet aussi important ?
Meg m'a piqué ma réplique. Je vais dire la passion, mais tu vas le dire aussi. Oui, la passion. Passion de faire connaître, de partager et de faire aussi du qualitatif, du local. Donc ça nous tenait aussi à cœur. Forcément, c'est un coût plus élevé, mais les retombées économiques sont pour la région aussi. Donc voilà, quand vous achetez des jeux de société, vérifiez bien si c'est écrit made in Bretagne ou made en France, ou c'est bien souvent fait en Italie ou au Portugal.
Ben du coup, la passion. non mais, enfin, hormis ça, c'est aussi remettre les personnages à leur place, remettre les femmes à leur place, et rien que pour ça en fait, ça motive forcément, peu importe le temps que ça prendra, on sait que les femmes sont oubliées, on sait que c'est compliqué à remettre, enfin que les gens ne sont pas forcément aussi aptes à entendre que certaines femmes sont derrière des grands hommes. Rien que pour ça, il y a un côté un peu militant aussi à faire ce genre de jeu de cartes. Et pour moi, c'est ce qui m'anime aussi dans mon travail, hormis le jeu de cartes, quoi, en tant que graphiste.
Merci beaucoup pour ces réponses. Et puis, on se retrouvera, nous, pour un autre épisode de ce podcast, à l'occasion, sur d'autres acteurs qui valorisent le patrimoine en Bretagne.
L'épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête du patrimoine.